Une remarque sur le personnage féminin, mais pas n'importe lequel. Le personnage moins sexué que sexuel. La figure de la pute, la facile, la mauvaise. La fille de joie ou de petite vie. Vous vous souvenez de Manon Lescaut, héroïne de ce classique du XVIIIe siècle que l'on doit à l'abbé Prévost et dont le titre, figurez-vous, n'est pas vraiment Manon Lescaut. C'est l'histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut. Et c'est intéressant qu'on l'ait retenue, elle, Manon, pour ses frasques, ses folies, ses errances morales, plutôt que son amant bien pensant. Elle qui est promise quand s'ouvre le livre au pire des destins, celui des femmes de rien qu'on envoie aux Amériques, elle dont l'histoire est racontée par son amant, récit qui est lui-même pris en charge par un autre homme, le narrateur qui est, nous dit-on, un homme de qualité, elle que l'on trimballe d'aventure en aventure, que l'on soupçonne des pires tromperies, que l'on envisage de prostituer, elle qui ne dit mot parce que manifestement ça n'était pas du tout dans l'idée de l'auteur, l'abbé Prévost, qui préfère la pointer du doigt. Autant dire que Manon, on n'aura pas sa version, mais on pourra étudier les mécanismes d'intimidation, d'humiliation, de stigmatisation dont elle est victime tout le long pour avoir commis le crime d'aimer avec son sexe et d'en jouir volontiers. C'est ce que les féministes canadiennes ont justement nommé le slut-shaming. Et pour moi, le fait que Manon Lescaut soit un classique, c'est assez symptomatique.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que fait mon invité de ces personnages féminins montrés du doigt depuis des siècles? Elle est romancière. Son premier roman, Hell, paru au tournant des années 2000, l'a propulsé sur le devant de la scène médiatique et littéraire. Deux textes depuis, Bubblegum et Crépusculeville, il y a 11 ans. Elle revient enfin avec un texte qui nous surprend, Elena et les joueuses. C'est la journée qui aurait pu être banale d'une jeune fille qui dérive. Bonjour Lolly Tapie.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Qu'est-ce qui, pour vous, fait de la littérature un terrain particulièrement fertile pour ces mécanismes d'intimidation, d'humiliation, de stigmatisation du sexe et de la jouissance féminine?
L'homme a toujours tenu le ciseau, le stylo. L'homme est le point de vue qui regarde l'objet féminin et qu'il désire et qui conçoit une culpabilité, assimile ce désir au mâle et en retire une culpabilité. La femme a toujours été, au lieu de l'imputer à Satan, l'homme a imputé à la femme la culpabilité, le mâle, la faute du sexe. C'est de cette faute, on dirait, que les hommes, les écrivains ont toujours témoigné dans leurs romans.
Du coup, en quoi est-ce que être une femme qui écrit et qui publie, c'est toujours quelque part un acte de résistance contre ces systèmes de domination, contre cette misogynie, Lolly Tapie?
Parce que les objets, les personnages féminins dans les livres, objets du désir masculin, sont muets, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de Manon Lescaut. Lorsqu'on est une femme et qu'on écrit, on fait résonner ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets. C'est quelque chose de presque inconcevable, en fait. C'est comme dans la Bible, quand l'âne ou l'ânesse de Balaam, ce marchand qui frappe sa monture, se retourne vers lui et se met à parler. C'est aussi surprenant, oui, qu'un cheval qui se met à parler, une femme qui écrit dans la subjectivité masculine qui est présente depuis longtemps.
Vous pensez à qui? Là, c'est autant à la lectrice qu'à la romancière que je m'adresse. Quel personnage féminin, quelle romancière?
Moi, je pense par exemple à Duras. Je me suis toujours beaucoup identifiée à Marguerite Duras parce que elle a écrit depuis un corps de Lolita. Ce qu'elle raconte dans L'Amant, c'est presque le renversement du roman de Nabokov, de Humbert, de Lolita. Elle raconte le désir, la sexualité, les pensées, la famille, la vie intérieure d'une fille de 14 ans, à l'intérieur d'un corps de 14 ans.
Et d'un corps aimant, d'un corps sexué, sexuel?
Oui, absolument, mais aussi un sujet du langage. Un corps qui est à la fois désiré et désirant, décrit, vu, mais aussi parlé et regardant.
Dans quelle mesure, Lolly Tapie, est-ce que vous avez été victime, par exemple, de slut-shaming, dès la sortie de votre premier roman, Elle?
À propos de Elle, je pense que je pourrais chanter ce que Gainsbourg chante dans Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Mais quelle sorte de délit est-ce qu'on vous a accusé d'avoir commis avec ce livre en réalité? Quels interdits la jeune fille de 19 ans que vous étiez à l'époque a-t-elle transgressé?
Je crois que précisément on m'a accusé de l'inverse de cet interdit, c'est-à-dire qu'on m'a accusé de n'avoir pas écrit mon livre. Alors que précisément, je pense que ce qu'on me reprochait au fond, ce qu'on haïssait au fond en moi, c'était le fait que j'avais écrit mon livre, que j'étais écrivain, que j'étais une Lolita qui écrivait, qui parlait, et qui parlait depuis une position qu'on a souvent assignée au silence, à la lascivité, à la passivité.
Si votre livre avait été écrit par un garçon, vous pensez qu'on en aurait parlé différemment ?
Elle ?
Ouais.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Flashback.
Elle de Lolita Pile chez Grasset. Lolita Pile qui a été le petit événement, je dirais, médiatique du printemps.
Voici Lolita Pile ! Lolita Pile, bonsoir. Vous avez 19 ans.
Oui.
C'est votre vrai prénom.
Oui.
Et votre père vous l'a donné non pas par perversion.
Non.
Pour faire bander les quinquas, pas du tout. Est-ce que vous êtes nympho ?
Non.
Est-ce que vous êtes maso ?
Oui.
Est-ce que vous êtes sado ?
Non.
Et là, pendant 230 pages, elle veut nous convaincre de ce qu'est la misère, de la jet set.
Alors ça commence très fort, hein. La première phrase.
Je suis une pétasse.
Le thème de la pétasse, la figure de, littéraire de la pétasse. Je veux bien qu'on soit indulgent parce qu'elle a 19 ans.
L'auteur dont c'est le premier roman, elle a 19 ans.
Qu'est-ce que tu fais à part vider les bars ? Tu fais rien ?
Non. Et toi ?
Non, moi non plus.
Bonjour Tristesse, version capitale, et voici. Mais peut-être l'ai-je mal lu.
C'est pas indigne comme texte tout de même.
Non, c'est pas indigne, c'est totalement insignifiant.
C'était un peu grâce à, enfin un peu beaucoup même, grâce à Frédéric Becbédé, c'est lui qui avait donné.
Alors, d'abord c'était grâce à moi qui ai écrit un livre.
J'ai pas rien, c'est comme ça, mais je suis dingue d'elle.
J'ai envie de sortir, je sors, à des coups sans toi.
Bon, la traite pas de pute.
Comment t'appelles une fille qui baise avec tout le monde ?
Lolita Pile, quand vous entendez certaines questions, certaines réflexions qui ont pu vous être faites au moment de la sortie de Hell, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2019, parce que c'est quand même très violent, est-ce que vous pensez qu'on se permettrait de vous dire la moitié de ce qu'on vous a dit à l'époque ?
Non, je pense pas, parce que je saurais répondre. Enfin, j'étais très jeune. Et...
Un mouvement comme le mouvement MeToo, aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que ça a changé à votre avis dans la manière qu'on a de parler des femmes, de s'adresser à elles ?
Je crois que les femmes avant MeToo étaient plus isolées. Ce qu'elles avaient pu vivre comme violence, le slut-shaming dont vous parlez, le slut-shaming littéraire qui a été mon expérience, ou le viol, je crois que les femmes étaient en quelque sorte pas au courant de ce que pouvaient vivre les autres femmes, que chacune d'entre nous étions presque persuadées que ce que nous avions vécu, nous le devions à nous-mêmes et non pas à un rapport collectif, à un rapport de force, de domination et de discrimination d'un sexe sur l'autre. Et en fait, ce que MeToo a introduit, c'est une espèce de connaissance stupéfaite que nous vivions toutes la même chose et que ce n'était donc peut-être pas à cause de moi, Lolita, ou de moi, quel que soit mon nom, une fille, que je vivais cela. Que c'était peut-être pas de ma faute, mais qu'il y avait peut-être un problème.
Et une évolution peut-être par conséquent. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous bien se parler aujourd'hui ?
Bien se parler ?
Ouais, bien se parler.
Écoutez, moi, de plus en plus... Je suis étonnée par la manière dont la métaphore sexuelle est utilisée pour injurier, pour rabaisser. Je pense que on devrait peut-être prendre conscience de notre sexualité et prendre conscience aussi que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas si mal. En vérité.
Vous voulez dire que la manière dont on se parle aujourd'hui nous dit aussi quelque chose de l'époque dans laquelle on est, plus que jamais.
La violence verbale, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est différent des autres époques, mais c'est vrai que une femme, dans sa vie, est l'objet d'une violence verbale quasi permanente et qu'elle retourne contre elle-même. Une voix méchante lui parle dans sa tête et lui dit... je ne veux même pas dire ce que cette voix dit, je ne veux pas élever cette voix.
La rabaisse ?
Oui, la rabaisse... Narabesse, idiote.
C'est comme ça que vous le vivez, vous, sans cesse.
Moi, j'ai souvent, J'ai souvent une voix. Oui, j'ai souvent une voix terrible qui me reproche tout.
De quelle époque est-ce qu'on vit, d'ailleurs, pour vous, aujourd'hui, Lolita Pille ?
On vit dans une époque qui pourrait être l'aboutissement d'un énorme progrès. L'aboutissement d'une prise de conscience dans le monde, dans la société occidentale, qu'il n'y avait pas qu'une seule conscience, celle de la conscience lettrée, blanche, masculine, bourgeoise, mais qu'il y avait, enfin que la société, que le monde, que l'humanité était composée d'autres groupes, d'autres représentations, d'autres expériences, et que notre époque pourrait être cette époque où l'on parvient à une synthèse, à une conciliation.
À vous entendre, elle ne l'est pas.
Il y a une volonté de domination, à mon avis, de la minorité sur la majorité qui est énorme, qui est névrotique.
Je vous pose aussi la question, parce que depuis Elle jusqu'à Elena et les joueuses, votre dernier roman, en passant par Bubblegum ou Crépusculeville, vous ne cessez de décrire un monde hanté par la déchéance, par la chute, par la faillite, un monde dans lequel vos personnages semblent toujours être les victimes expiatoires d'une faute. Et ma question, c'est de quelle faute notre époque se rend-elle coupable, à votre avis, Lolita ?
Hélas, je crois que des fautes si graves ont été commises dans toute l'histoire, et notamment au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle. Enfin, je veux dire, le commerce triangulaire, la colonisation, les guerres, l'extermination des Juifs d'Europe, le capitalisme en soi, enfin...
Qu'on en paye encore le prix ?
Ah, mais je crois
qu'on
que...
Qu'on en paiera toujours le prix ?
Non, je voudrais qu'on n'en paye plus le prix. Mais je n'ai pas l'impression que nous réussissons à changer.
De quoi vous vous sentez coupable, vous, de tout ça ?
Moi, je me suis sentie énormément coupable de tout le mal qu'on m'avait fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Précisément, il y a une telle faute, il y a de tels crimes qui pèsent notre conscience qu'on passe, je crois, notre temps à essayer de les rejeter sur l'autre. Et ça devient insoutenable pour tout le monde, en fait, pour tout le monde.
Dans Elena et les joueuses, on suit sur une journée votre jeune héroïne issue d'un milieu favorisé, très désabusée, condamnée à rembourser les dettes colossales de son père. Adolescente, elle a été championne de tennis, elle a tout plaqué. Pourquoi est-ce qu'elle a tout plaqué, tiens ? Pourquoi est-ce qu'elle a abandonné ?
Elena était une joueuse de tennis extrêmement douée, qui effectivement s'est sabotée, a abandonné, a renoncé à son unique moyen d'existence, son unique moyen, enfin, de s'affirmer, de contribuer par quelque beauté ou quelque grandeur au monde, à la société. La question que je pose avec Elena, c'est la question du jeu. C'est-à-dire non pas la question du gagnant ou du perdant, mais du jeu en soi, de la compétition. Et donc de ceux qui refusent cette compétition, qui refusent de se prêter au jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu, c'est l'élimination des rivaux. Elena, à un moment, sans vraiment formuler ça, sans préméditer ça, sort du jeu. Elle quitte le court, elle jette sa raquette. Il faut m'imaginer faire la gueule et jeter sa raquette. Enfin, pas un geste sublime. J'étais une très très bonne élève. Et à 14-15 ans, je me suis sabotée, j'ai abandonné, je suis sortie du jeu. Je supportais pas d'être ça, la meilleure élève.
Et on s'en sort quand on sort du jeu ? On s'en sort mieux ?
On s'en sort différemment et au moins on improvise quelque chose.
Improviser. Bah, c'est le qui ferait mieux d'improviser dans cette émission. Ça nous ferait des vacances, je vais vous dire. Vous la connaissez peut-être, Lolita, c'est la culture. Et son actualité qui s'accroche comme une moule à son rocher ou une tique au derrière d'un chien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 8 mai?
Le plus grand prix littéraire français, le prix Goncourt.
Qui mérite le prix Goncourt ?
Le prix Goncourt.
Un Goncourt, c'est bien, trois, c'est mieux. Hier, l'honorable, l'Académie emmenée par Bernard Pivot, a décerné ses trois prix de printemps. Le Goncourt du premier roman revient ainsi à la jeune Marie Gauthier pour Court vêtu, bref récit d'initiation sensuelle. Le Goncourt de la nouvelle revient quant à lui à l'écrivaine belge Caroline Lamarche pour le recueil Nous sommes à la lisière sur le lien entre l'homme et l'animal. Et enfin, le joli prix de la poésie est attribué au breton Yvon Lemaine pour l'ensemble de son œuvre publié aux éditions Bruno Doucet.
On est tous ensemble pour assister à une séance de cinéma.
Pas d'invite, pas de problème. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes et le film qui l'accompagne ne seront plus réservés à une poignée de festivaliers triés sur le volet. Cette année, le discours de l'ami Edouard Baird, la présentation du jury d'Alejandro González Iñárritu et le film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch seront retransmis en direct et en simultané dans plus de 550 salles de cinéma en France. Et bonne nouvelle, ni le nœud pape ni les souliers vernis ne seront obligatoires. Rendez-vous mardi prochain, si vous le voulez bien.
Savez-vous réellement ce qu'est un mot ?
Dico Presto, l'Express a révélé en exclu les mots qui feront leur entrée dans l'édition 2020 du Petit Larousse Illustré qui sortira le 22 mai. Résultat, 150 nouvelles références qui font la part belle à la technologie et à l'écologie. Parmi eux, ubérisé, darknet, cybercrime, mais aussi bioplastique ou survivalisme. Notre préféré, c'est clouquer, un verbe qui nous vient de Bretagne, Lolita, qui signifie manger avec avidité, se baffrer. Super califragilistique, expia délicieux. Mercredi de femmes, séance tout feu tout flamme, car aujourd'hui dans les salles, on prend un coup de chaud avec Hellboy, reboot musclé du célèbre comic book signé Neil Marshall. On plonge avec les crevettes pailletées, comédie flamboyante et mouillée de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Et sinon, on oublie tout devant Fugue, le beau thriller psychanalytique sur l'amnésie, les femmes et la famille de la réalisatrice polonaise Agnès Smoginska. Allez là! Et la romancière Lolita Pille, donc invitée de Boomerang ce matin pour Elena et les joueuses. Elena, cette jeune femme, on le disait, hantée par la disparition de son ancienne amie. En l'occurrence, Elena criblée de dettes. Elena désabusée qui vous permet, j'ai l'impression, Lolita, de proposer une réflexion sur ce que c'est que la réussite, effectivement. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, réussir, aujourd'hui ?
Réussir, c'est réussir selon ses propres valeurs et pas selon des modèles... Institué par d'autres qui ont peut-être intérêt à ce que vous abondiez dans leur modèle, vous essayez de reproduire leurs valeurs plutôt que d'imposer les vôtres. Pour moi, réussir, c'est écrire de la littérature selon mes propres critères littéraires, ni selon les critères de la presse et ni, bien que je l'aime beaucoup, selon les critères du public. N'en faire qu'à sa tête.
Quand j'ai renoncé, à peu près, comme une balle sort à petits rebonds latéraux, de plus en plus flappy, j'étais classé en dessous des 300. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais persévéré, resserré ma prise, augmenté mes efforts, compris ce que signifie poursuivre un but et sacrifier, aujourd'hui, je me dis que j'aurais réussi. Tout le monde a du talent, c'est la chose la mieux partagée. Mais l'opération par laquelle on transforme un talent moyen en puissance véritable, c'est le secret du monde le mieux gardé. Il est obscur, comme ce don larvé en nous depuis la naissance. Combien d'entre nous en défroissent toutes les ailes jusqu'à la métamorphose complète ? Ça aurait pu être moi, qui sait ? Votre talent, à vous, Lolita Pille, au départ, c'était quoi, à votre avis ? Pas de truc en plus ?
Mon talent ?
Ouais.
Déjà, merci de me parler de mon talent. Je pense que mon talent, c'était de dire ce que je pensais. Quelle que soit la personne qui soit en face de moi, quelle que soit la personne à qui je m'adresse, et quel que soit le danger que ce que je pensais pouvait causer, je crois que c'était ça, mon talent.
Et c'est quoi la puissance véritable, pour reprendre vos mots ? Ça représenterait quoi ?
En littérature, en tout cas, en littérature, ou en tennis, enfin, la puissance véritable...
Comment on fait pour transformer le talent en puissance véritable ?
Le travail.
Le travail.
Le travail et puis la connaissance de son art, enfin la connaissance descendre très très profondément dans les soutes de son art et savoir comment il est fait, de quoi il est constitué et où est-ce qu'il en mène.
Alors ça passe chez vous par une lecture, des lectures névrotiques quasiment.
Oui.
Quand vous écrivez, de quelle puissance est-ce que vous vous sentez empli, Lolita Pille ?
J'aimerais vous dire que je me sens empli de la puissance d'Apollon ou de l'Esprit Saint, mais je me moquerai de vous. Je crois que on est empli d'une puissance quand on écrit, qui est la puissance d'une négation du moi. On ressent quelque chose d'autre que l'égoïsme. On essaye d'accéder à l'univers. Et parfois, peut-être touché de nos avances et de nos tentatives amoureuses, l'univers nous rend un peu de sa puissance.
C'est pour ça que vous écrivez, vous ?
Ah oui, le moi, c'est terrible.
Est-ce que vous diriez que ça vous rend heureuse ?
D'écrire ?
Ouais.
Mais je crois que c'est une définition assez classique de la du bonheur, celle de Spinoza, l'augmentation de la puissance. Le bonheur, est-ce que c'est la possession? Est-ce que c'est... Enfin, je voudrais pas donner de leçons de morale, mais oui, quand j'écris vraiment, quand je ressens tout cela, je suis puissante et je suis heureuse.
On va en reparler, évidemment, de tout ça, juste après une merveille que vous avez choisie, Shirley Bassey, qui reprenait Les Doors en 1970, Light My Fire. Vous êtes sur France Inter, avec Lolita Pie, vous écoutez Bouhang, il n'est pas trop tard pour la beauté, pas trop tard pour la séduction, le soufre, le sexe, pas trop tard pour avoir le feu.
You know.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre la petite fille de Marguerite Duras, l'héroïne d'un livre de Virginie Despentes, et L.O.L.I.T.A. C'est pas ma faute à moi, avec son visage d'éternelle adolescente, ses noirs cheveux, son regard effronté, ironique, sa moue amusée, un peu sarcastique, ses Blanche-Neige qui aurait réduit en esclavage les sept nains, qui s'en frotteraient les mains, tout en noir ce matin avec sa jupe longue en tweed et ses bas blancs immaculés, la romancière Lolita Pie, invitée de Boomerang pour Elena et les joueuses, l'histoire entre autres d'une jeune femme que vous décrivez dans les premières pages comme une ombre. C'est ce qui est assez fascinant, une jeune femme qui semble désincarnée, une jeune femme qui vit avec le fantôme d'une amie qu'elle n'a plus vue depuis des années. Qu'est-ce que vous faites des corps, en fait, Lolita ?
Ce que je fais des corps,
ouais.
J'aimerais être capable de les jeter à la rivière.
Qu'est-ce que c'est pour vous ?
Et de les oublier à jamais. La rivière, c'est le temps. La rivière, c'est le temps. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. On laisse des corps derrière nous, des ombres derrière nous. On laisse des mois derrière nous. Elena a derrière elle un certain nombre de mois. Certains qu'elle voudrait oublier, jeter à la rivière. des mois traumatisés, meurtris, niés, endeuillés, et certains qu'elle voudrait rappeler, des mois glorieux, des mois joueurs, des mois heureux. Ce roman à propos d'Elena qui se promène dans Paris, c'est la tentative de retrouver les ombres bonnes et de se débarrasser des ombres mauvaises.
Si on parle du corps qui est central dans le livre, il s'agit quand même d'une sportive. Pour la romancière que vous êtes, quel outil est-ce que c'est votre corps? Quelle expérience physique est-ce que c'est l'écriture d'un livre, Lolita Peel?
C'est étrange que vous me posez cette question parce que ça m'obsède assez. Je trouve qu'on ne parle jamais du corps de l'écrivain. Le corps de Proust sur son lit de mort, photographié par Man Ray. Moi, je trouve qu'on dirait le corps d'un martyr. Enfin, c'est la première comparaison qui vient à l'esprit quand on voit ça. Proust qui est mort presque en écrivant le point final. Enfin, c'est un peu romancé, arrangé, mythifié, mais c'est ainsi.
Le vôtre de corps, c'est une épreuve.
Le corps, c'est quelque chose envers quoi l'on est impitoyable. C'est un outil de travail et on tire de lui. Tout ce qu'il a sans ménagement, comme une monture qu'on harasse.
Jusqu'à l'épuisement?
Oui, jusqu'à l'épuisement.
Ça voudrait dire quoi? Des heures d'écriture?
Ça a été des heures d'écriture entre 27 et 35 ans. Je n'ai vécu que pour écrire. J'ai écrit à chaque heure de ma vie, même en dormant. Je me réveillais au milieu de la nuit pour continuer à écrire une idée sur...
Il faut dire que ce livre, vous l'avez écrit à Brest, où vous avez vécu pendant une dizaine d'années après avoir quitté Paris. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? De quel besoin est-ce que ce départ est né?
Je suis partie pour retrouver mon temps, parce que le temps à Paris était trop fragmenté. Trop fragmenté par l'amitié, par la vie, par le mouvement, par l'animation, par le multiple. Je suis partie pour avoir tout mon temps, un temps non fragmenté qui est hélas, je crois, ou heureusement, le seul propice à un véritable engagement, une véritable écriture.
C'est intéressant parce que c'est de Brest que vous avez écrit ce livre qui se passe à Paris. C'est un peu comme si votre esprit, lui, n'avait pas vraiment quitté Paris.
Mon esprit a quitté Paris pendant plusieurs années. Il a voyagé dans les siècles parce que j'ai énormément lu des livres anciens, etc. Et puis mon esprit, ou plutôt mon cœur, est revenu très brutalement à Paris fin 2015 et a été rappelé très brutalement à Paris par mon amour pour Paris qui avait été frappé par une tragédie. Et c'est cet amour, c'est ce besoin de me réunir à Paris frappé qui a fait que j'ai écrit Elena et les Joueuses. Je suis écrivain et écrire ce livre qui commence par une femme sur un quai de gare, c'était ma façon de rentrer à Paris.
Vous avez écrit un texte ce matin, Lolita Peel, un texte qui se nomme « Le jaune et le noir » et que j'aimerais vous entendre lire, qui touche à une question fondamentale chez vous, on l'a compris, en écoutant cet entretien qui est celle du dédoublement.
Le jaune et le noir. Qui es-tu, bourgeoise, pour dire « Je suis avec les gilets jaunes » ? Depuis que tu as entendu dans le ciel de Paris exploser des grenades, qu'est-ce qui te retient entre tes murs, hanté par une manif que tu ne rejoins pas ? Ton père à Brest possède deux gilets jaunes. Il est motard, il s'en revêt pour être visible la nuit, pour qu'on ne l'écrase pas. Tu pourrais emprunter un gilet à ton père. Depuis 25 semaines, tu comptes les yeux crevés et tu luttes contre la persuasion du pouvoir, la transmutation rhétorique des opprimés en agresseurs, des révoltés en foule haineuse. Le gouvernement occulte son saccage feutré du service public que la rue manifeste, matérialise. Les écoles fermées répercutent des tourbillons de verre sur les Champs-Élysées. Les milliards immolés à des centrales nucléaires fantômes alors que la faim malmène lancent des flammes bruyantes sur les boulevards. La police qui a ordre de bloquer et de gazer les manifestants qualifie d'armes par destination des fauteuils roulants pour justifier des gardes à vue et des coups sur la gueule. C'est le sermon de Castaner. Plus qu'une entourloupe, c'est une vision du monde. Nietzsche a décrit cette morale du fort à laquelle s'oppose une morale de pitié, introduite dans l'humanité par le judaïsme et le christianisme. Les aides-soignantes ne refusent pas leurs soins aux CRS blessés. On se souviendra qu'en 2019, les rues étaient jaunes toute la semaine, car ceux qui les réparent le lundi portent aussi un gilet jaune. Devenu un insigne d'action, nous croisons ces porteurs avec un respect neuf. Je n'ai pas marché avec eux. Je n'ai rien donné. Au contraire, j'ai reçu. Une odeur de liberté retrouvée dans le soir de Paris, sur les pubs nihilistes, des mots tagués de révolte et d'amour. Voilà pourquoi je soutiens les gilets jaunes.
Vous finirez par marcher avec eux, Lolita Pille ?
Si j'ai quelqu'un pour venir avec moi, oui.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'Elena, elle est joueuse, vient de paraître chez Stock. C'est un morceau de bravoure, d'écriture. On attend les suites parce qu'il y en aura. Et on vous dit merci.
Merci Augustin.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, aller où, aller où, visage pâle, dans une tour d'ivoire en rase campagne. Mais elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel elle te rend. Chacun de tes gestes, elle te prend le vitesse.
Apache sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Trop les innocents, je les ai beaucoup écoutés. Bref, à demain Augustin.
Salut.